entre les musulmans et aux chasseurs orientales. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de vous passer au Casablanca. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, plus de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Kapi qui vous propose Parole aux auditeurs. À l'occasion de la Journée mondiale contre la torture célébrée le 26 juin de chaque année, l'Observatoire congolais des droits de l'homme évalue positive la situation de la torture en RDC cette année, en dépit de quelques écueils. Et c'est depuis la promulgation l'année dernière de la loi par le chef de l'État portant criminalisation de la torture. Par ailleurs, en Ituri, en province orientale, 74 cas de torture physique et morale ont été enregistrés de janvier à mai 2012 dans ces districts. C'est notamment dans les maisons de détention de la police nationale congolaise, des services de renseignement, des forces armées et des centaines d'entités coutumières. Ces chiffres ont été publiés le mardi à Bounia par l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAF en Ituri. Que proposez-vous pour prévenir des cas de torture en RDC? Appelez-nous au 081 890 4339 pour intervenir et déposez-nous aussi votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous en parlons avec Bernard Katumba, coordinateur de l'action des chrétiens contre la torture. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Paroles aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Cette émission est présentée par Pierrot et la Mégie, J.R. Lungembo, Titi Mpoutou et Willem Lungaba sont à la réalisation et Nicole Ngatia à la supervision. Nous revenons bien sûr sur la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture et nous faisons le point avec vous dans votre milieu s'il y a encore des cas de torture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les cas de torture? Nous en parlons avec Monsieur Bernard Katumba. Vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous essayons de faire les points sur le terrain. Vous êtes très engagé, bien sûr, dans la lutte contre la torture. Aujourd'hui, comment évaluez-vous la situation de la lutte contre la torture à RDC sur le terrain?
Merci, Monsieur Pierrot. Je voudrais d'abord corriger, avant toute chose, je suis le secrétaire général de l'ACAT. L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Merci.
Et en même temps, président ad intérim. Alors, pour revenir à votre question, comment se présente la question de la torture en République démocratique du Congo?
Oui.
Il faut dire que la torture, vraiment, c'est un domaine qui est vraiment très préoccupant en République démocratique du Congo, parce que depuis que la loi avait été promulguée par le président de la République, jusqu'à ce jour, nous constatons que, bien que la loi ait apporté quelque chose de positif, c'est-à-dire un instrument de travail pour nous, il reste encore beaucoup à faire sur le terrain. Donc l'application de cette loi pose encore problème. Et il y a bien des choses que nous devons encore revoir pour rendre cette loi effective sur le terrain. Alors il faut dire que au niveau de la CAP, nous avons plutôt un grand travail à faire au niveau de l'éducation aux droits humains, qui est la clé même de la prévention de la torture. La CAT pense aussi organiser le monitoring, parce que nous le faisons régulièrement, le monitoring des lieux de détention ou des lieux privatifs de liberté, dans les prisons et tout autre lieu de détention. Alors, ça se fait au moyen des activités individuelles en faveur des détenus. Et là, nous allons visiter au parloir, on essaye d'assister aussi certains prévenus, une assistance juridique. Il y a aussi des activités en faveur de l'ensemble des détenus. Ça peut se faire par exemple avec des activités religieuses ou spirituelles. Toujours par rapport à ça et pour prévenir la torture, nous disons que cette série d'activités nous permet de prévenir non seulement la torture, mais de lutter aussi contre l'impunité.
Donc voilà, ça sont les actions que la CAC mène sur le terrain. Vous avez dit qu'il y a des problèmes par rapport à l'application de la loi.
Oui.
Quels sont les problèmes rencontrés aujourd'hui qui font à ce que cette loi ne puisse pas être appliquée plus facilement?
Oui, la première chose qu'il faut ici relever, c'est que nous avons des difficultés d'abord par rapport à la loi elle-même. La loi pose problème parce que et il n'a pas prévu la réhabilitation des victimes de torture. Mm-hmm. Lorsqu'il y a des personnes qui sont victimes de la torture, avant même d'être déférées devant un juge pour être entendues, au moment du déroulement du procès, la personne devra d'abord être en bonne santé. Parce qu'on ne se présente pas devant un juge avec des plaies, malade, ou lorsqu'on n'est pas dans tous ces états. Mm-hmm. Donc, il faut d'abord que la personne soit prise en charge sur le plan psychologique et sur le plan médical. Mm-hmm. Ça, c'est fondamental. Alors, la loi n'a pas prévu ça, et nous avons estimé que c'est une insuffisance. Il faudra qu'on puisse voir dans quelle mesure cette loi pourra être complétée par d'autres dispositions qui pourraient remédier à la carence. Mm-hmm. Deuxièmement, il faut noter aussi le fait que il y a l'ignorance de la population. Mm-hmm. La population elle-même, à ce niveau, ne facilite pas la tâche parce que très peu de gens font un effort de connaître la loi portant criminalisation de la torture. Donc la loi numéro 11/010 du 13 juillet 2011, promulguée par le chef de l'État. Très peu en ont, très peu s'en ont procuré, et notre travail consiste justement à aider les gens à avoir cette loi-là. Donc combattre d'abord l'ignorance, c'est une difficulté aussi. Une autre difficulté, c'est par rapport à la plainte. Les gens ne veulent pas porter plainte ou hésitent par crainte de représailles. Ceci parce que il y a l'impunité. Les gens qui ont commis des actes de torture, parmi cette catégorie des gens, c'est-à-dire des agents publics, des fonctionnaires, il y en a qui sont protégés par certains textes qui établissent notamment que lorsqu'il y a des poursuites à engager à l'encontre des agents publics qui ont commis des actes de torture, il faut d'abord se référer à leur supérieur hiérarchique. Et là, je crois que je voudrais ici citer le cas d'un texte qui organise les services de renseignement. Et il s'agit de l'article 5 de ce décret-là. Mm-hmm. Alors, dans ce décret, déjà, à partir de cet article 25, il constitue en quelque sorte un obstacle à toute poursuite. Dès lors que de telles personnes commettent des actes de torture sur des personnes qui doivent être en quelque sorte protégées et que pour les poursuivre, il faille d'abord demander l'autorisation, l'on se pose la question de savoir pendant combien de temps il faut attendre, par exemple, que l'autorité hiérarchique puisse répondre et autoriser des poursuites. Nous disons aussi que même si la torture elle-même a un caractère imprescriptible, le temps en dehors lequel nous allons attendre pour que l'on autorise les poursuites n'est pas connu. Et la victime risque de mourir. Et ça, c'est vraiment un problème sérieux que nous devons
voir.
C'est une situation qui est préoccupante parmi les difficultés. Hein.
Ok, nous allons évoquer d'autres difficultés aussi avec les auditeurs qui sont en ligne. 081-8-43-39, c'est le numéro d'intervention pour les directs juniors et Tambujimaï au Kassai oriental. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir pour proposer des pistes et des solutions qui peuvent nous permettre de prévenir des cas de torture en RDC.
Parole aux auditeurs.
Junior, vous êtes en ligne de Mbujimaï Kassai oriental. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de votre radio.
C'est Piro et la Meiji qui est présente aujourd'hui. Junior, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous afin de prévenir des cas de torture en RDC?
Oui, Piro. Moi, je pensais qu'il faut former et mettre à la portée de tous les directeurs et coordonnateurs des centres de détention où sont détenus les prisonniers, ceux qui sont dans le cachot, informés sur différentes matières qui attirent aux droits de l'homme. Parce que nous nous rendons compte que ce sont parfois que les opposants et les gens qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui sont souvent torturés dans des centres de castration.
Mm-hmm.
C'est pourquoi il fallait à ce que tous les personnes qui travaillent dans les services de sécurité, comme planeurs, le PGM, doivent aussi passer par une recensement ou une formation sur les droits de l'homme. Et avec ça, je pense que beaucoup de gens pourront changer. Mais seulement tous les gens qui sont des directeurs de centres de détention et les différentes personnes qui sont au-dessus de ce service-là, il y a une mèche politique derrière, c'est-à-dire la torture aura toujours de l'entrée entre nous. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé, quand vous arrêtez quelqu'un, il y a une mèche qui derrière vous dit non, faites ça pour lui.
Mm.
Un exemple, je donne l'exemple d'Armand Zwangulu, je sais que c'est ça quand le maître est arrêté. Il a été torturé jusqu'à mort. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui a tué Armand, qui est battu, il est mort, je ne sais qui à quoi. C'était ça ma préoccupation.
Voilà, merci. Junior, vous pensez qu'il faut une formation, une sensibilisation en matière des droits de l'homme, hein, à les destinations de tous les agents publics, que ce soit ceux de services de renseignement, de services d'immigration, la police, tout ça, ceux qui travaillent aussi dans les maisons de détention, ils doivent être formés en matière des droits de l'homme. Vous avez évoqué les cas Armand Tongo de l'agression, si c'est ce qui a été présenté dans ces cas par le gouvernement de la RDC, c'est que Armand Tongo s'était pendu dans sa maison de détention, c'est ce qui a été présenté comme une version officielle autour de ce dossier-là. Merci beaucoup, Junior. Vous êtes en Bujumbura, au Kasai Oriental. Jules Moudéroa, vous êtes à Kongolo, dans la province du Katanga. Jules, vous êtes dans la province du Katanga, à Kongolo. Bonjour, Jules.
Oui, bonjour, M. Clément, bonjour.
On vous écoute, Jules. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les cas de torture en RDC?
Monsieur Perron, grandement merci de m'avoir accordé la parole en étant à Kongolo. Moi, je pense que la torture d'un prisonnier ou d'une personne incarcérée, Monsieur Perron, est une réalité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et en particulier ici chez nous à Kongolo. À titre d'exemple, une personne quand elle est mise en prison ou aux arrêts, ici chez nous à Kongolo, coupable ou innocente, elle est complètement considérée comme un sous-homme. Un homme qui ne mérite pas de gérer la vie comme tant d'autres. Pour un prisonnier, avoir à manger de la part des chiens, quand je parle de la part des chiens, là, je fais allusion aux membres de sa famille ou aux amis. Ce n'est pas un droit pour un prisonnier d'avoir à manger. Mais plutôt une faveur selon les clichés commis à la garde de la prison. Ainsi que vous allez remarquer que les prisonniers reçoivent à manger de la part des amis, ou de ses amis ou de connaissances, si ceux-ci acceptent de déposer une quelconque somme entre les mains des prisons et des policiers qui sont en train de garder le pas de la prison. Les prisonniers mangent et dorment à même les forces, sans se couvrir de moustiquaires. Et pourtant, les moustiques sont des visiteurs permanents dans les lieux où l'on incarcère les gens. Quand un prisonnier entre pour la première fois en détention, il se voit de verser dessus tout un panier d'injures de la part des policiers censés de les protéger. Cela prouve que la torture à l'endroit de la personne détenue est loin d'être bannie.
Jules.
Ça, au niveau national.
Jules, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà.
Pour notre pays, n'est-ce pas?
Oui, Jules, ça c'est le constat sur terrain. Voilà, Jules, si on peut s'entendre, Jules, ça c'est le constat sur terrain. Vous avez remarqué que tous ces cas arrivent à Kongolo, à Tshikapa, ça peut être aussi à Bunia, ça peut être à Kalemi, à Bukavu et partout ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir de tel genre de comportement, Jules?
Ce qui doit être fait, M. Perron, est simple. Il faut que l'autorité sache que le prisonnier se nomme parmi tant d'autres. Il a droit à la liberté, il a droit de mener la vie. Hein. La vie est reste aussi comme un homme, n'est-ce pas, des parties. Et si les autorités doivent fournir des efforts, pour que le prisonnier aussi puisse se sentir heureux.
Voilà, merci, Jules. Vous pensez qu'il faut une prise de conscience auprès de l'autorité publique sur les droits de prisonniers, même si quelqu'un est en détention, mais il a quand même droit, il est privé des libertés, mais il a droit à la vie, droit à la santé, droit, n'est-ce pas, à son intégrité physique. Merci beaucoup, Jules. Vous êtes à Kongolo, au Katanga. Nous avons Maître Adrien qui est à Kananga, au Kasai Occidental. Maître, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Et qu'est-ce qu'il faut pour prévenir des cas de torture, vous, en tant que juriste? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, par exemple, à Kananga ou bien au Kasai Occidental où vous êtes?
Oui, merci pour la question. Je pense qu'on va te donner la position parce qu'il y a une question juridique. Comme vous le savez, il se pose un problème J'avais cherché vraiment toutes ces soins-là, parce que ces gens-là ne les dérangent pas. Ils sont donc calmes lorsqu'ils existent ces histoires, et c'est pour cela qu'on pose un peu de problème pour que les autorités judiciaires ou bien les autorités compétentes soient au courant des faits qui leur ont été infligés comme torture. Ça, c'est un point. Bon. Au passé occidental, d'une manière générale, la torture physique est en train de tourner d'intensité. Il n'y a que des tortures morales. Bon, ça c'est aussi un point. Maintenant, il y a certains cas qui sont sur le groupe dénoncés même, mais nous assistons à une certaine complaisance de la part des autorités judiciaires qui sont mises au courant. Et tous ces cas-là, mais il ne faut absolument rien. Et là, maintenant, je vais vous dire donc ma position. Je pense que dans le temps, j'avais la torture est pour considérer comme l'un des éléments dont nous appelons une contrainte aggravante pour une infraction. Et depuis un certain temps, cette torture a été érigée en une infraction à part entière. Moi, je pense, comme être prêt, en cas de torture, il faut tout simplement mettre en application cette loi-là. C'est-à-dire sanctionner lorsqu'il faut sanctionner, lorsque dans certains cas rares, là j'insiste, certains cas rares qui sont donc dénoncés par le particulier, il faut donc sanctionner les auteurs. Là, c'est une solution parce que depuis un certain temps, nous estimons que dans notre pays, il y a une souffrance d'application des lois. Il y a des lois qui sont votées en elles-mêmes, mais ces lois-là souffrent d'application. Voilà ce que moi je peux dire, j'estime qu'il faut mettre tout simplement en application cette loi-là de torture.
Merci beaucoup, Adrien Maître. Vous êtes à Kananga. Vous avez dit, à Kananga, il y a une baisse en intensité, bien sûr, des cas de torture physique, sauf les tortures morales. Mais le grand problème, c'est le manque des dénonciations. Et quand bien même, il y a des gens qui y dénoncent, ils ont été victimes de la torture, il n'y a pas de suivi, il y a une complaisance. Mais l'important aujourd'hui, c'est la mise en application de la loi portant criminalisation de la torture. La lutte contre l'impunité en matière de la torture, c'est ce qui peut aider à prévenir des cas des tortures. Merci beaucoup, Maître Adrien de Kananga, au Kassai Occidental. Aboubacar, vous êtes à Boutembo, au nord d'Ivo. Bonjour, Aboubacar.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et nous parlons de la prévention des cas de torture. Qu'est-ce qu'il faut faire à Boutembo pour prévenir des cas de torture?
Oui, précisément ici à Boutembo, donc ce que je peux dire, il y a d'autres zones. Donc il y a d'autres zones qui sont à cachette. Donc il y a beaucoup de services qui vont se permettre peut-être de cacher les prisonniers quelque part et de faire ce qu'ils veulent. Donc si parfois il arrive, les gens des droits de l'homme, on cache, donc on prend tout le détenu et on le met à côté. Donc on le met à côté et on peut directement dire aux agents des droits de l'homme que donc ici il n'y a pas les cachots. Et après leur départ, il le fait revenir encore dans le cachot. Donc, il y a des cas de torture qui sont vraiment ici. Donc, notre gouvernement a beaucoup de choses à faire pour dénicher, en fait, ces auteurs.
Voilà, merci, Bacar. Et là, vous avez fait allusion aux maisons de détention secrètes. Hein. Vous pensez qu'il y a des maisons secrètes qui sont à Boutembo ou soit ailleurs. Et des fois, quand il y a les agents des ONG, des droits de l'homme, passent pour le monitoring, on cache les détenus, hein, les gens qui sont détenus. Alors, vous pensez que le gouvernement a un grand travail à faire. Le plus grand problème, c'est d'avoir des maisons de détention qui sont connues par tout le monde, qui soit rattaché comme une fois il y a eu cette décision, n'est-ce pas, que toutes les maisons de détention soient rattachées à un parquet, comme ça on sait qui est détenu et pourquoi est-il détenu dans cette maison de détention. Ça peut facilement aider à prévenir des cas de torture. Merci beaucoup à Aboubacar de Boutembo. Kassamba, vous êtes à Bounia, c'est en province orientale. Bonjour Kassamba. Kassamba, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, ça s'en va illustrer sous sa ligne. Le temps de pouvoir prendre Michel, qui est à Matadi, c'est dans la province de Bakongo. Michel, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, c'est Michel Compeléma.
Michel, on vous écoute, nous parlons de la prévention des cas de torture en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre, si on peut dire, l'éradication, si c'est possible?
Oui, moi, j'en ai juste parlé d'une autre dimension.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a une autre aussi, une autre dimension de la torture que les gens ignorent souvent, que la torture morale,
mm-hmm.
qui est plus grave encore que la torture physique. Et cette dimension, on la trouve souvent surtout dans les milieux professionnels.
Mmh.
Aujourd'hui, il y a des employeurs qui engagent des stagiaires. Mais vous allez remarquer que ces stagiaires, parfois, vont au-delà du timing prévu par la loi.
Mmh.
Et tout ça, ça cause problème. Et les employés le font pour maximiser leurs intérêts. Donc, c'est genre de torture. Amène quelque chose dans la tête de ceux qui font du travail.
Mmh.
Et j'ai un cas levé. Par exemple, si vous partez à Mbandaoun, dans la province du Gabon, vous allez voir ce qui se passe chez les enseignants. Il y a d'autres enseignants qui sont dans les fonds. Et chaque fois qu'il y a paye, vous allez voir les chefs d'établissement qui devaient se déplacer pour arriver là où on effectue la paye. Et lorsqu'on paye, les chefs d'établissement qui arrivent, parce qu'ils sont nombreux, ils doivent remettre quelque chose au comptable pour qu'ils soient servis avant.
Mmh.
Et dès qu'ils sont servis, à la fin, vous allez voir la coordination qui gère les écoles, font les exigences, les calendriers, pour vendre encore à ces chefs d'établissement. Et tout ça, on prend cette somme-là dans le salaire des enseignants. Et lorsque les préfets ou les chefs d'établissement arrivent au milieu où se trouvent les enseignants, il va faire encore son petit commerce là. Il va vendre aux enseignants des vivres frais et à la fin des comptes, il va encore se tirer dans leur salaire. Or, le salaire est inaliénable. Et vous allez voir, lorsqu'on va payer l'enseignant à la fin, il se retrouve avec rien. Ça aussi, c'est une torture.
Mm-hmm.
C'est une torture vis-à-vis des employés. Moi, je crois que ce n'est pas seulement la torture physique qui doit être prise en compte, mais c'est surtout la torture morale. Lorsqu'on maltraite quelqu'un, moralement, et même le physique, le spirituel, tout est touché. Donc, c'est ça ma contribution.
Merci, merci beaucoup, Michel. Vous êtes à ma famille, vous avez beaucoup insisté par rapport à la torture. D'ailleurs, la Constitution du 18 février 2006, en son article 16, interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain et dégradant. Et l'article 61 du même texte ne tolère aucune exception à ces principes, quelles qu'en soient les circonstances. Voilà, vous avez beaucoup insisté sur la torture morale et la torture physique. 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Mais déposez-nous aussi un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, mais à l'adresse pa@radiocafu.net, et vous allez présenter des pistes et solutions pour prévenir des cas de torture dans votre milieu, là où vous êtes. Nous en parlons bien sûr en marge de la célébration de la Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. C'était le 26 juin dernier.
Le débat politique, c'est dans un autre congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Monsieur Bernard Katumba, vous avez suivi nos auditeurs. Ils sont revenus sur la formation, la sensibilisation des agents des services publics sur le respect des droits de l'homme. Il y a ces problèmes de la prise de conscience de l'État. Mais Adrien a insisté sur la dénonciation, mais aussi la mise en application de la loi. Aboubacar a évoqué des cas de maisons d'exemption qui sont cachés. Et notre ami de Matadi, Michel, est intervenu. Il a beaucoup insisté sur la torture morale. Vous, qui êtes de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, comment restez-vous face à toutes ces propositions au point de vue des auditeurs?
Je remercie d'abord tous les auditeurs qui sont intervenus. parce que ils ont montré effectivement qu'ils sont préoccupés par tous ces problèmes qui se posent dans leurs coins respectifs ou dans leurs provinces respectives. Je salue l'intervention de Junior Lemujimaï, qui insiste sur la formation et le fait qu'il faut mettre à la portée de tous les instruments internationaux. Ça, c'est effectivement ce que nous, à CAP, nous sommes en train de faire, parce que c'est comme dit la parole de Dieu pour les chrétiens, mon peuple meurt faute de connaissances. Lorsque on n'a pas l'information, l'information en tout cas lorsqu'on la manque, c'est déjà le commencement de la mort. Et nous croyons que la formation, c'est déjà là le premier pas lorsque on veut sensibiliser et lorsqu'on veut combattre effectivement l'impunité. La prévention commence par là. Il y a aussi Jules Moudéroa de Congolo. Je suis d'accord avec Jules quand il fait l'observation selon laquelle la torture est tout à fait une réalité sur l'étendue du territoire national. Nous l'avons constaté à travers toutes nos antennes qui sont fonctionnelles à travers nos provinces. Il souhaite que l'autorité prenne conscience de la situation. C'est notre travail aussi. Nous faisons en sorte que l'autorité, au lieu plutôt de la diaboliser, considérer l'autorité de l'autre côté comme étant une autorité qu'on ne peut pas approcher. Nous, la CAP, nous faisons un effort parce que il faut traiter avec l'autorité. C'est avec l'autorité qu'il faut débattre de la question. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Il faut aller vers l'autorité pour qu'on puisse traiter des questions de fond. On n'attend pas des problèmes parce que les problèmes, lorsqu'ils arrivent, nous ne saurons pas comment nous en sortir. Donc, il faut avoir justement cette attitude préventive par rapport à ça. Les exemples qu'ils donnent par rapport à la réalité sur le terrain, c'est une réalité que nous vivons, que nous voyons. Il évoque aussi les mauvaises conditions de détention. Effectivement, sur le terrain, les mauvaises conditions de détention, nous les observons à Kinshasa comme partout ailleurs. Il y a la vétusté et la surpopulation dans les prisons. Il y a la séparation des détenus qui devrait se faire, mais avec les prévenus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On constate que et les détenus et les prévenus sont ensemble. Nous constatons également que dans certains cas, la séparation des hommes, des femmes et des mineurs n'est pas observée. La qualité de la ration alimentaire n'est pas bonne. Il y a aussi un autre aspect, par exemple, les conditions à réunir pour les visites. Pour visiter, on l'a dit, on monnaie même la nourriture. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment déplorer. Lorsque vous devez accéder à la prison ou à un lieu de détention, il faut toujours soudoyer les policiers ou la garde qui est commise en ces lieux-là. Ce n'est pas normal. Et puis, l'accès aux soins dans les lieux de détention ou dans les prisons. Ça, en tout cas, ça reste un problème entier. Les gens sont malades. On les observe là-bas. Ils sont vraiment dans des conditions physiques tout à fait déplorables. Mais il n'y a pas un suivi médical. Il n'y a pas de médecins qui passent régulièrement pour pouvoir connaître leur état de santé. Et ça, ça préoccupe la CAP. Enfin, je vais évoquer le traitement des personnes qui sont tout à fait dans les prisons et des traitements qui sont inhumains, dégradants, etc. etc. Donc, si je vais décrire comment ça se passe là-bas, je crois que ceux qui passent à la prison en savent beaucoup. Alors, il y a aussi une question. Il a parlé de la dignité. Je crois que une personne qui est arrêtée, il y a d'abord ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, on ne doit pas, au moment où on est poursuivi, directement considérer que la personne poursuivie, elle est déjà condamnée. Non. C'est juste la preuve du contraire. La personne est considérée comme étant innocente.
Mais il y a un problème, c'est oui. Quand il y a par exemple des gens qui sont arrêtés par les services de sécurité parce qu'on les accuse, comme on dit les termes de tous les jours, atteinte à la sécurité de l'État, ou divulgation d'informations, atteinte au chef de l'État, des choses à la dignité du chef de l'État. Mm-hmm. Quand on a des cas comme ça, comment au niveau des ONG qui militent pour l'abolition de la torture, comment vous agissez quand il s'agit des cas de personnes qui sont arrêtées parce qu'ils sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État, ils sont torturés pour avoir des informations auprès d'eux. Et alors, à ce niveau-là, comment se fait les plaidoyers pour que des choses qu'on puisse mettre fin à de telles pratiques?
Oui, effectivement, lorsque quelqu'un est mis aux arrêts, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on lui dise pourquoi on l'a arrêté. Donc, la loi est claire là-dessus. Une personne qui est poursuivie, arrêtée, il faut qu'on lui dise le motif de son arrestation. On doit lui communiquer ça. de la sorte, il saura pourquoi il est dans cette situation-là, pourquoi il est dans une situation de privation de liberté.
Mm-hmm.
Quand on ne le dit pas, on arrête la personne et puis on ne respecte même pas sa dignité, la personne est ligotée, flagellée, battue, bref, la personne est bafouée. Donc elle est blessée dans son esprit, elle est détruite pratiquement dans toute son âme. Une telle personne, dans un premier temps, nous disons, nous en tant qu'ACAT, nous devons amorcer, dénoncer d'abord. Nous dénonçons ces pratiques parce que c'est des pratiques qui ne sont pas couvertes par la loi. La loi n'autorise pas ça. Et nous rappelons toujours l'autorité à chaque instant, quand nous constatons ces choses-là, nous rappelons pour dire le gouvernement de la République a pris des engagements vis-à-vis n'est-ce pas, de la communauté internationale, en signant régulièrement et en ratifiant un certain nombre d'instruments. Et lorsque on a signé, ratifié, on est appelé à se conformer à tous ces instruments-là. À partir du moment où on n'arrive pas à faire ça, nous, notre travail, c'est de toujours rappeler. Tantôt, je disais ici que l'autorité, nous ne voulons pas la mettre, à l'écart pour éviter de la rencontrer. Notre travail consiste à aller toujours vers l'autorité, échanger avec l'autorité, voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions ensemble. Il faut aller débusquer l'autorité, parce que l'autorité, souvent, et ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est partout, presque dans beaucoup d'États, nous avons remarqué ça, l'autorité ou l'État ne veut pas collaborer avec les ONG. On considère les ONG comme des espions, comme des gens qui viennent couiner là où il ne fallait pas. Alors, notre travail, nous avons une autre démarche, c'est notre approche. Il faut plutôt débusquer l'autorité. Il faut aller à son bureau. Vous trouvez l'autorité, vous posez les problèmes. N'attendez pas que les problèmes se posent. Il faut prévenir pour guérir.
Voilà. Mais il y a beaucoup de démarches, c'était, je crois bien, avec les ONG qui ont milité pour qu'on puisse avoir de maisons de détention qui sont connues. Est-ce qu'il y a eu gain de cause aujourd'hui par rapport aux multiplicités des maisons de détention? Est-ce que les ONG ont obtenu quand même auprès de l'autorité la suppression de ces maisons de détention qui sont peut-être dans les bureaux des services spéciaux de la police où personne n'a accès? Y a-t-il eu une évolution par rapport à ça?
Oui, la torture, en réalité, se pratique derrière les murs. Hein. Ce n'est pas toujours au grand jour que nous voyons vraiment la torture physique se faire, à part la torture ordinaire, des fouets, qu'on voit ça et là, dans les bus, lorsqu'on arrête un receveur, etc. etc. Mais il faut dire que les cachots, c'est-à-dire les lieux de détention qui sont clandestins, sont illégaux. Vous l'avez rappelé ici, lorsque vous interveniez pour pouvoir... répondre à un auditeur qui est intervenu sur Radio Okapi. Nous sommes d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait sur l'étendue du territoire national des cachots clandestins. Notre devoir, c'est de les dénoncer. De les dénoncer avec énergie pour que l'autorité que nous rencontrons prenne conscience de ce que ce qui n'est pas prévu par la loi, ce qui est en marge de la loi, ne doit pas fonctionner sur le territoire national.
Voilà.
Alors, ça c'est notre devoir et nous devons le faire très régulièrement. Oui. Mais c'est comme on l'a dit aussi, l'obstacle demeure cet article 25 que nous avions évoqué concernant certains services où les poursuites sont soumises à des autorisations préalables. Et ça, ce n'est pas normal. C'est ça la difficulté. Il faut arriver un jour à faire sauter ces verrous-là. Si cet article est revu, si le décret organisant ces services est révisité, je crois que nous pourrions tous avoir gain de cause.
Oui, c'est si on peut le dire clairement ici pour les auditeurs, cela veut dire qu'il y a le décret qui organise les services de renseignement, par exemple.
Oui.
Si quelqu'un a besoin de poursuivre d'aller en justice contre un agent de la mer, qui l'accuse de l'avoir torturé, il faut au préalable qu'il y ait d'abord une autorisation de l'administrateur de la mer qui autorise à ce que cet agent soit poursuivi, ou soit il faut l'informer. Et dans ces cas, ça devient difficile pour savoir quand est-ce que l'administrateur pourra donner l'autorisation, n'est-ce pas, à ce que l'agent de la mer soit poursuivi. Et là, il se pose un problème de comment adapter la loi contre criminalisant la torture par rapport à cela. Merci pour cette première partie, ces explications. Nous avons Jean qui est à Kananga, Joël est à Idiofa et Aristote est à Boutembo. On va vous accorder la parole, monsieur, pour nous dire ce qu'il faut faire hein, pour prévenir des cas de torture en RDC.
Parole aux auditeurs.
Jean, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Voilà, Jean, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à prévenir des cas de torture? C'est Pierrot qui a la présentation.
Oui, merci, c'est Pierrot, j'ai compris. Mais je voulais intervenir en m'attaquant au propos de l'invité qui est sur le studio. Donc, il dit que c'est la non-connaissance de la loi par la population ou l'ignorance de la population qui est en train de faire des concours que les lois puissent être appliquées. Je sais qu'en droit congolais, il y a un principe qui dit qu'il est censé ignorer la loi. Quand le législateur propose ce principe-là, ça dit qu'il y a des vulgarisations qui sont prévues pour que les lois soient connues de tous. Mais ici au Congo, ce principe-là ne souffre beaucoup. Car non seulement la loi que la torture, ou n'importe loi, même la Constitution, n'a jamais été vulgarisée comme le veut le constituant. Je veux dire que, ici à Canaan, moi-même j'étais surpris quand j'ai écouté ce sur la radio Capitale, que la loi sur la société a été déjà promulguée par le président de la République. Nous, les ONG, les députés de la peine, dire si son ONG qui l'a sur place à Kinshasa a déjà vulgarisé la loi sur place à Kinshasa, lui ici en province. Nous avons des organisations des droits de l'homme qui sont en province et qui sont à Kinshasa là, qui ne sont jamais à mesure de vulgariser n'importe quelle loi. Ils s'attellent seulement à vulgariser la loi sur les violences sexuelles, la loi sur les droits de la femme ainsi de suite. Mais la loi sur la torture n'a jamais été vulgarisée sur la province. Et pourtant, il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Comment voulez-vous que la population puisse aller dénoncer? Mais en fait, il y a des obstacles, comme il a dit sur l'article 25 et autres là, qui se trouvent des handicaps. Comment la population peut aller se plaindre si la population n'est pas en mesure de comprendre ce que c'est la loi, ce que dit la loi en question? Il faut d'abord que la population soit avisée. À ce moment-là, ils pourront aller se plaindre. Même s'il y a des obstacles, même le directeur de la mer. Prenons par exemple, s'il trouve qu'il a beaucoup sur sa table, beaucoup de sollicitations de la part de la population doit solliciter qu'on puisse respecter l'agent de la mer. S'il y a peut-être 5 ou 10 interventions de la population, il pourra s'aider et ça pourra servir d'exemple. Je ne veux pas que la population est ignorante, mais la responsabilité est partagée entre la population et l'État. Il y a aussi les activistes des droits de l'homme. C'est des ONG, ils ne veulent pas venir vulgariser les lois.
Voilà. Merci Jean, ça c'est très important ce que vous avez dit. Vous êtes même revenu pour dire que la Constitution elle-même a-t-elle déjà été vulgarisée. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de lois et comme vous l'avez dit, cette loi a été promulguée depuis le mois de juillet 2011 et c'est la première fois que vous entendez parler qu'il y a une loi qui criminalise la torture et c'est maintenant que vous en entendez parler. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il faudrait vulgariser les textes juridiques. Il n'y a pas seulement l'ignorance, mais l'ignorance vient du fait qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas parti dire à la population que cette loi existe, ça sera difficile que la population puisse porter plainte. Et quand les gens auront connu l'existence de la loi, avec la pression, ils peuvent parvenir à obtenir gain des causes. Et là, vous avez donné la responsabilité à chaque personne, que ce soit l'État, que ce soit les ONG, ils doivent beaucoup plus militer pour la vulgarisation des textes des lois. Merci beaucoup, Jean. Vous êtes à Kananga, au Kassai occidental. Nous avons Joël qui est à Idiopa. C'est dans le Bandundu. Bonjour, Joël.
Bonjour, Akrejan.
Vous avez suivi notre ami de Kananga pense qu'il y a un problème sérieux, c'est les déficits des vulgarisations des textes juridiques. C'est ce qui fait aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il y a déjà une loi qui pénalise ceux-là qui pratiquent la torture. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les cas des tortures à Idiopa, par exemple?
Oui, je dirais que l'option qu'a prise mon prédécesseur n'est pas en soi mauvaise, mais moi j'ai aussi ma position.
Allez-y.
Oui, disons que on devrait d'abord connaître une chose. Ces comportements-là, de pouvoir torturer, c'est pas venu de hasard. Hein. Donc les colons, l'homme blanc qui nous avait colonisé, nous avait inculqué cette mentalité-là de pouvoir torturer. Ils nous ont torturés, après quoi nos militaires. Qui se disait à l'époque les militaires indépendants, disons, par rapport à notre État, ce sont eux aussi qui ont aussi continué avec, à l'époque de Mobutu. Nous avions vu que non, les militaires à la face de la population, c'est une personne qu'on craint. hein, mais la population n'a pas vraiment confiance à nos agents de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas en soi quelle est l'importance de la mission dévolue à ces agents ici. Mais j'allais aussi dire une chose par rapport à ces comportements. Si vous allez constater aussi en ce qui concerne notre pays, une fois que vous ayez de bonnes idées, non, on finira par vous torturer. C'est par exemple le cas de ceux qui sont appelés aujourd'hui. Non, zéro. Ils étaient torturés, mais apparemment nous disons qu'ils avaient de bonnes idées. Torturés par qui? Par nos agents. Alors moi je pense que la torture en fait c'est un fait réel. Si vous arrivez aujourd'hui dans nos prisons, ceux qui sont appelés des détenus, ces présumés là, innocents là, mais faut voir ce qui se passe là-bas. Hein, sont torturés au niveau des offres humaines.
Oui, Joël, voilà comment la démarche. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Et c'est depuis le temps de la colonisation. Mais tous ces États, tous ces pays, ceux même qui nous ont appris la torture, qui ont pratiqué la torture sur nous, que nous avons hérité, sont parvenus à mettre en place des mécanismes hein, pour prévenir des cas et pour lutter et même mettre fin des fois dans d'autres pays à la torture. C'est ça un peu la démarche dans cette émission. Cela existe. Nous savons que les militaires, les policiers, tous ces gens, les gens, ils ont ces idées-là. Ils pensent qu'il faut torturer quelqu'un. Quand on l'arrête, il faut les torturer. Mais il faut aussi parvenir à mettre fin à ces pratiques. C'est la démarche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour que ces pratiques-là qui sont déjà ancrées à nous puissent disparaître, okay, quand quelqu'un est arrêté, qu'il ne puisse pas être torturé, quelle que soit la raison pour laquelle la personne a été arrêtée?
Alors, je vais ici profiter de l'occasion inventer une théorie qui est la mienne. Disons, moi je pense que nous devons commencer à avoir une tête, un cœur. Apparemment, comme si on n'a pas la tête, on n'a pas aussi de cœur. Donc, moi je pense que si nous voulons que cette pratique-là puisse être éradiquée, c'est au niveau de la mentalité. Donc, nous devons commencer à considérer, disons, à nous considérer les autres comme nous-mêmes. Si vous arrivez à ce stade, à considérer l'autre comme toi, cet amour-là, c'est ce qui fait faire que. Il y a des lois, il y a des textes qui existent, mais en soi, est-ce que ces textes-là sont appliqués?
Voilà.
Nous disons en droit d'un texte, un texte qui n'est pas appliqué, même si ça existe sur le plan de l'écrit, mais ça n'existe pas en pratique en soi. Disons que je pense que c'est un problème de mentalité.
D'autres
populations doivent constituer, surtout les agents de l'ordre, ici je mets le point, ils doivent commencer à considérer la population comme celui qui vient vers lui pour chercher la protection. Donc, considérer, de connaître en soi son travail envers la population. Et la population aussi doit avoir une autre considération de ses agents ici. Ce n'est pas cette
Merci beaucoup, Joël. Voilà, on a compris les maîtres mots hein, de votre intervention. C'est le changement d'attitude, le changement de mentalité, que ce soit au niveau de la population, les agents de l'ordre, tout le monde doit avoir un changement de mentalité pour considérer la personne humaine dans sa dignité. C'est l'unique manière dont on peut arriver, qui peut nous permettre d'arriver, n'est-ce pas, à la prévention des cas de torture. Merci beaucoup, Joël, vous êtes à Idiourfa. Nous avons Aristote qui est à Boutembo, au nord de vous. Bonjour, Aristote.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, Radio Capine. Bonjour, à l'invité.
Vous avez suivi, il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur le respect de la loi, mais il y a notre ami Joël qui pense qu'il faut aussi un changement d'attitude, un changement de mentalité, un changement de considération. C'est ce qui peut arriver à la prévention des cas de torture. On vous écoute, Aristote.
Oui. Je vais encore appuyer mes prédécesseurs, mais je vais répondre à la préoccupation en disant qu'il y a un proverbe qui dit que l'homme est né naturellement bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais.
La société le rend mauvais, c'est ça?
Oui. Alors, vous savez, les agents de l'ordre font leur métier. Mais d'autre part, moi je vais donner la responsabilité à qui? À l'État congolais. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui n'est pas payé Dieu, il ne touche pas de l'argent, il a une famille, il a une responsabilité à lui. Mais comment cette personne peut vivre? Il faut que cet agent de l'ordre puisse d'abord intimider les détenus dans les cachots, soit à la prison, pour que ces détenus-là, parce que si vous voyez, tout commence par l'argent des bougies que les policiers ont toujours utilisé. Non, il faut amener l'argent pour acheter les bougies.
un bougie qui revient à 150 cents, mais ils vont te demander 10 dollars pour un bougie seulement.
Mmh.
Alors, il faut les payer. C'est-à-dire, l'État doit commencer à payer qui ces agents de l'ordre.
Mmh.
C'est après ça qu'il est la vulgarisation maintenant de la loi interdisant la torture et qu'on va maintenant faire. Mais d'abord, il faut commencer par payer les agents de l'ordre.
Mmh.
C'est maintenant que, parce que quand quelqu'un n'est payé, je ne sais pas si quelqu'un peut encore faire du mal. Mais quand on n'est pas mieux payé, il y a une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débrouiller pour avoir de l'argent. Et comment faire? Il faut intimider les gens. C'est pourquoi moi je vais demander, il faut que l'État puisse d'abord commencer à
améliorer les conditions de vie. Oui, voilà. Merci Aristote.
Oui,
vous pensez
qu'il faut... Les
okay. Et tout passe aussi par l'amélioration des conditions de vie des policiers. Je vais donner un exemple dans une des résidences à la prison. Le policier qui vous demande une bougie coûte 150 dollars et 150, qu'est-ce que j'ai dit, 150 francs sur à l'extérieur, il te dit non, voilà, la bougie c'est 10 dollars ici à la prison, il faut donner. Alors si vous pensez que s'il faut améliorer les conditions de vie des agents de l'ordre, ça peut aussi les amener à lutter contre les cas des tortures. Steve, vous êtes à Bombashi, la mère est à Guindou, gardez la ligne, nous allons revenir à vous parce que vous êtes le dernier auditeur pour clôturer cette émission consacrée bien sûr à la prévention des cas des tortures.
Parole aux auditeurs.
Steve, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Oui, bonjour, JR, bonjour. Bonjour, Pierre, la ministre.
Voilà, on vous écoute, on vous écoute, Steve, oui.
Oui, avant toute chose, je me dois d'abord de vous remercier pour m'avoir accordé de façon non équivoque le temps de participer dans cette émission.
Oui.
Moi, je veux proposer une piste de solution pour dire. Nous devons lutter pour insérer un état de droit dans ce pays. Tant qu'on n'a pas inséré un état de droit dans ce pays, jamais on ne pourra lutter contre les tortures et autres. Vous comprenez? Nous devons lutter pour insérer un état de droit. Un état dans lequel l'homme doit être considéré comme une personne et non comme un animal. Un état dans lequel les droits de l'homme doivent être respectés comme moi.
Voilà, merci Steve, vous pensez
que... Ah oui, je voulais vous dire aussi.
Oui, allez-y rapidement, oui.
Oui, quand on va, je vais dire que nos services de sécurité, les agents de l'ordre, ils doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience pour savoir que ce n'est pas... Ils ne doivent pas travailler pour la population. On ne doit pas être maltraité comme ça, être torturé. On doit quand même lutter pour
insérer. Merci, Steve. Vous pensez que tout passe par dans la globalité, hein, n'est-ce pas? La création de l'état des droits, RDC, où les droits de l'homme doivent être au centre de tout, c'est ça qui fait conduire à la lutte contre les cas de torture. Mais vous avez pensé aussi qu'il faudrait que les agents de l'ordre puissent avoir cette conscience de savoir qu'ils travaillent pour la population et non pour l'intérêt d'un individu. Voilà, merci beaucoup, Steve. Nous allons terminer cette émission avec vous, Lambert. Vous êtes à Kindu, dans le Maniema. Bonjour, Lambert.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot, la
On vous écoute, Lambert.
Oui, moi, je voudrais juste intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui. Je pense pour moi, la prévention de la torture peut se faire sur deux phases. La première phase, c'est d'abord la sensibilisation. Puisque nous avons constaté ici sur le terrain à Kindu, beaucoup des agents des services de l'État qui pratiquent la torture ne connaissent pas la torture d'abord et ne sont pas informés de la loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Donc, ce qui est important d'abord, c'est de former les OPJ, les agents de valeur, les gens qui pratiquent souvent la torture au niveau de l'intérieur, au niveau des cachots, au niveau des prisons. Après cela, il fallait aussi penser à la praticabilité de la loi, c'est-à-dire les magistrats. Il n'est pas seulement question chaque jour de promulguer la loi pour que la loi soit reste dans le pouvoir. Nous l'avons vu avec la loi sur les violences sexuelles. La loi sur les violences sexuelles a été pratiquée par beaucoup de magistrats. Beaucoup de gens ont peur de violer, c'est parce que les magistrats ont fait preuve de la pratique de ce pouvoir. Nous aussi, nous pensons, avec la promulgation de la loi qui porte à l'accumulation de la torture, les magistrats doivent aussi utiliser cette loi en arrêtant les OPJ et les agents de l'État qui font pratique de la torture. Puisque la torture n'est pas le seul moyen pour chercher l'information, soit pour quoi qu'on parle ici, on se sent derrière le plaisir de population, de l'argent ou autre chose. C'était ça mon intervention.
Merci beaucoup Lambert, vous avez dit en deux volets. Premièrement, il faut la sensibilisation. La plupart des auteurs de tortures, ils ne savent même pas ce que ça veut dire la loi, ils ne connaissent pas la loi, il faut les sensibiliser. Mais il ne suffit pas aussi de sensibiliser seulement, mais il faut mettre en pratique la loi, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'avec la mise en application de la loi contre les violences sexuelles, on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur, parce qu'ils savent qu'eux, ils seront condamnés. Et là, vous avez sensibilisé le magistrat, qu'il faudrait, dès qu'il y a un cas, dès qu'il y a une dénonciation, il faut saisir du dossier et pouvoir mettre en pratique cette loi, condamner les auteurs de la torture. C'est de cette façon-là que les autres personnes vont avoir peur. Merci beaucoup, Lambert. Vous terminez cette émission au nom de tous les auditeurs. Nous revenons à vous, Monsieur Bernard Katumba, pour commenter encore le point de vue des auditeurs et profiter pour conclure cette émission consacrée, bien sûr, à la prévention des cas de torture en RDC.
Oui, merci encore une fois pour la parole. J'aimerais d'abord, avant de répondre aux derniers intervenants, dire ceci à M. Michel Kumpemena du Bas-Congo. Je crois qu'il était en train de parler des enseignants.
De la torture morale pour
le moment. De la torture morale ou psychologique que connaissent les enseignants dans les milieux professionnels. Alors, je crois que M. Michel là est en train de poser un problème qui normalement est de la compétence des syndicats. En fait, les syndicats existent pour défendre les intérêts professionnels, comme cela est le cas partout. C'est à ce niveau-là que l'on doit s'organiser et voir dans quelle mesure, avec les employés, les employeurs, je vais dire, trouver des solutions appropriées pour que les conditions de travail soient améliorées. Mais au-delà des questions syndicales, je crois qu'il pose aussi le problème de la justiciabilité des droits économiques et sociaux. C'est-à-dire que c'est une problématique pour nous, les activistes des droits humains. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de pouvoir, déférer certains cas qui relève des droits économiques et sociaux devant les cours et tribunaux. L'exemple qu'il donne, je vais l'évoquer ici, quelqu'un travaille pendant un certain nombre de jours, à la fin du mois, en principe, on doit le payer. Qu'est-ce qui va advenir si l'employeur ne paye pas? Est-ce qu'on peut l'accuser déférer ce cas devant les cours et tribunaux? Voilà la problématique qui est soulevée. C'est une réflexion qui est en cours au niveau de la doctrine. Tout le monde est en train de réfléchir. On verra dans quelle mesure on peut faire évoluer la question. Mais la lutte syndicale existe déjà et le travail s'est fait. En ce qui concerne Jean de Boutembo, loin de nous contredire, je crois que dans son intervention, il nous a effectivement complété. Et nous sommes avec lui lorsqu'il dit que il faut d'abord la connaissance de la loi par la population. En plus, j'ajoute qu'il faut aussi vulgariser. Oui, la vulgarisation, c'est fait. Et notre organisation a déjà commencé aussi à vulgariser cette loi. Nous avons même pensé à le faire dans toutes nos langues nationales pour permettre à la population de pouvoir comprendre certaines expressions qui sont utilisées dans ce texte de loi. C'est un jargon des spécialistes, des juristes. Ils ne sont pas tous des juristes. La population devra comprendre ce texte-là, chacun dans sa langue maternelle. Ça, c'est très important. Et je crois que s'il faut sensibiliser au niveau de la population, il faudra aussi penser au renforcement des capacités de certaines autorités. Donc, les magistrats, notamment, les officiers de police judiciaire, les IPJ, les APJ, les OPJ, tout ce monde-là, nous devons renforcer leurs capacités. Je crois que le dernier intervenant est revenu aussi là-dessus. José Didiofa a insisté sur la mentalité. Nous sommes très d'accord. La torture, c'est un héritage, n'est-ce pas, de la colonisation. Et ce sont des vieilles pratiques que nous avons pratiquement transmises de génération en génération. Nous devons en être conscients et essayer un peu de voir dans quelle mesure on doit éradiquer cette part dans notre société. Aristote Diofa, il dit, de Boutembo plutôt, l'homme est né bon, là il revient à certaines théories des philosophes, c'est vrai, la société transforme l'homme, mais nous insistons encore une fois de plus sur le fait que l'État congolais a pris des engagements en ratifiant régulièrement un certain nombre d'instruments internationaux. D'ailleurs, le fait même que au niveau de l'État, on ait fait des efforts pour harmoniser notre législation interne avec les normes internationales, c'est déjà un pas. Pour nous, c'est déjà un effort positif. Le problème demeure surtout au niveau de l'application de la loi. si la loi peut être appliquée, je crois que cela ne demanderait que l'effort d'abord de nous-mêmes populations. Nous devons apprendre à porter plainte, même s'il y a une catégorie de gens qui nous font peur, parce que nous disons si nous portons plainte, et ne sont pas poursuivis, ils risquent de faire des représailles sur nous. Je crois qu'avec un minimum de courage, et si tous nous prenons conscience de ce fléau qui est la torture, les tortionneurs, ils seront démusqués dans leur coin et ils pourront reculer face à cette vague de protestations qui vont se soulever de partout. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par ces intervenants. Donc, il faut que nous puissions lutter tous pour pouvoir instaurer dans ce pays un état de droit.
Merci. Merci beaucoup, M. Bernard Katumba, pour avoir commenté ce sujet avec les auditeurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et vous en êtes président à l'intérim en ce moment. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont été fidèles à cette émission par aux auditeurs que nous clôturons. Et par là, je rappelle qu'il était consacré à la prévention des cas de torture en RDC.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine, bien sûr, de l'émission Parole aux auditeurs. La RDC fête le samedi 30 juin prochain son accession à la souveraineté nationale et internationale. Pour Parole aux auditeurs, nous allons parler avec vous une seule question. 52 ans après l'indépendance, quel regard portez-vous sur l'avenir de la RDC? Réagissez dès à présent à l'adresse pa@radiocopie.net, mais aussi déposez-nous un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Jir Mungembo, Titi Poutou, William Lungamba pour la production de cette émission. Supervisée par Nicole Ngata, mais on nous déplacera parce que le programme continue sur Radio Kati. Au revoir.